RCF et l'Association des paralysés de France vous présentent L'APF vous accueille. Une émission présentée par Yvonne Ollier.
Bonjour à tous, et bien aujourd'hui nous sommes en compagnie de Soleil avec la présence d'Aline Perret. Bonjour Aline.
Bonjour à tous.
Alors Aline, vous êtes très loin, je vais tout dire, nous sommes en téléphone, en communication téléphonique, puisque vous êtes à Perpignan.
Oui, Perpignan.
Voilà, une bien belle ville. Le Canigou va bien ?
Le Canigou va bien, il a encore un peu de neige. Hein.
Bon, ah bah alors c'est très bien.
Parce que d'habitude, à cette époque-là, il est tout verdoyant.
Bon, eh ben c'est très bien. Donc on vous a invité parce que vous avez été pendant très longtemps responsable secrétaire et au conseil d'administration de l'APF, mais vous êtes également bien sûr une personne en situation de handicap. Et c'est votre parcours qu'on voudrait un petit peu connaître aujourd'hui. Vous êtes une battante. Pour bien vous connaître, je connais ce mot. Je sais que vous êtes quelqu'un qui avait toujours envie d'aller de l'avant, qui avait toujours des idées et qui ne vous laissait jamais aller. Est-ce que c'est une bonne définition ?
Ah ben, je ne sais pas si elle est bonne, mais ce qui est bon déjà, c'est que ben, je suis une personne en situation de handicap puisque j'ai eu la polio quand j'avais 3 ans. Que je suis peut-être, oui, c'est vrai, une battante, mais c'est que c'est la vie qui s'en est chargée, puisque j'avais 10 ans quand mon papa est mort, subitement, 14 ans quand ma maman est partie aussi, après une longue maladie.
Oui, ça fait beaucoup pour une enfant.
Des choses qui vous marquent, et qui font que, bon, ben, on essaie de s'accrocher, de se raccrocher, de se dire que la vie vaut toujours la peine d'être vécue.
Oui, et aujourd'hui, toujours la même pensée ?
Ben, oui, c'est toujours la même pensée, parce que, après toute cette litanie, je dirais, de malheur, entre guillemets, j'ai eu quand même cette petite espérance un jour, c'était à Noël, c'était à un an après le décès de ma maman, et je vois l'assistante sociale de l'APF qui vient nous rencontrer et m'apporte un paquet, un petit colis de Noël, et qui était envoyé par l'Association des paralysés de France. Alors, bon, j'étais très étonnée d'abord, j'étais élevée par mes grands-parents maternels et puis j'ai eu beaucoup de bonheur et je ne suis pas une petite fille qui n'a pas eu d'amour dans son enfance, même si je n'ai pas eu trop longtemps celui de mes parents. Et donc j'étais un peu surprise que bon, l'Association des paralysés de France, c'est vrai j'étais polio, mais pour moi on m'avait jamais dit que j'étais handicapée, donc je ne cherchais pas trop à savoir. Et j'ouvre ce paquet, il y avait des friandises, et dedans, il y avait un petit col Claudine, les petits cols blancs là, qu'on portait à l'époque. C'était un peu rococo. Et je me suis dit, tiens, je dis à ma grand-mère, j'aimerais bien rencontrer la personne qui m'envoie ce paquet, mais j'aimerais la rencontrer toute seule. Alors donc, ma grand-mère prend rendez-vous, on va là-bas, et je vois, je me trouve, et ça a été une rencontre essentielle dans ma vie. Je me retrouve en présence d'André Moulis, qui était une pionnière de l'APF, qui travaillait à l'époque avec André Tranois. Et ça a été vraiment...
Elle vous a vacciné complètement avec l'APF.
Ouais, ça a été l'APF. On peut dire que André Moulis m'a ouvert les portes de l'association.
Comme vous, après, vous l'avez ouverte à d'autres.
Cette association qui, au fil des ans, est devenue ma famille. Il m'a appris à grandir à travers ma différence. Voilà, ça a été la première chose.
Donc vous aviez à peu près 15 ans ?
Oui, 14-15 ans.
Et voilà. À partir de ce moment-là, vous avez, disons, vécu dans une autre famille, puisque bon, vous aviez toujours, bien sûr...
Vécu pas de suite, parce que moi je lui ai dit que je voulais bien venir à l'APF, mais que je n'étais pas handicapée, donc si elle voulait, si on avait besoin de moi pour aider, j'étais toute prête.
Voilà. Quel était votre handicap à ce moment-là ? Est-ce que vous étiez...
À l'époque, j'avais une polio, c'était les jambes, donc je marchais avec des cannes, un appareillage, tout à fait comme les polios... comme tous les polios.
Oui, voilà.
Donc, c'était la marque de fabrique à l'époque.
Oui, tout à fait.
J'avais devant moi l'image d'une personne atteinte de polio. Et c'est après, c'est que bon, elle a été très lentement, parce que quand même j'étais fragile à ce moment-là. Et ensuite, j'ai passé un diplôme, j'ai voulu passer mon diplôme de monitrice de colonie de vacances. Et c'est là, ça a été le deuxième déclic, celui-là. Et pour être monitrice, bon, j'ai passé les CRIS, ça n'a pas de problème, mais quand j'ai voulu passer, il y avait un stage pratique à faire. Hein. Et à ce moment-là, il ne m'a pas été possible de le faire dans une colonie de vacances ordinaire, hein, puisqu'à l'époque on appelait ça des colonies de vacances. Et donc André Molis, toujours elle, m'a envoyé à Castéquis dans les Basses-Pyrénées pour faire ce stage de monitrice de colonie de vacances. Et là, quand je suis arrivée à Castéquis, je dirais que ça a été le choc. Parce que tout d'un coup, moi qui étais protégée un petit peu, je découvre des handicaps physiques lourds.
Voilà, c'était une colonie de vacances spécialisée.
De jeunes femmes, de jeunes filles, hein, puisque de personnes handicapées.
Et là, vous avez découvert vraiment le monde du handicap.
Là, tout d'un coup, donc, je me retrouve devant des handicaps physiques lourds. Mais surtout, je prends conscience mais du mal-être de mes nouvelles amies qui étaient là un peu de tous les quatre coins hein, de France. Il y en avait un peu partout. Je prends conscience de leur isolement. Il y avait Marie qui vivait avec sa maman au quatrième étage, sans ascenseur.
Elles avaient quel âge, ces jeunes filles?
Ah ben, elles avaient mon âge à peu près, un peu plus, 15, 16 ans, 20 ans, on va dire, une vingtaine d'années.
Oui, donc vous étiez vraiment toutes dans les mêmes idées, dans les mêmes façons d'agir.
Pour partir en vacances, j'ai pris conscience de leur solitude profonde. Alors, et c'est vrai qu'à cette époque-là, on ressentait davantage le rejet de la différence. On était plus traités, entre guillemets, comme des personnes, comme des handicapés, plus que comme des personnes.
Vous vous sentiez rejetée à partir de ce moment-là, vous êtes sentie rejetée?
J'ai pris en plein dans la figure tout ça. J'ai pris en plein dans la figure qu'il y avait, par exemple, une fille, Thérèse, elle s'appelait Thérèse, qui était amoureuse, mais il lui fallait taire ses sentiments, parce qu'à cette époque-là, une fille handicapée ne se mariait pas. Enfin, on parlait de mariage à l'époque, c'est plus comme maintenant. Et voilà que, et pendant ce mois, je suis restée un mois, parce que les colonies de vacances, à l'époque, ça durait un mois.
Oui.
Et pendant ce mois, j'ai vraiment partagé, je sais pas, leur hargne de vivre, leur volonté de s'en sortir, leur espoir. On passait beaucoup de temps à dialoguer, à refaire le monde un petit peu. Et à mon retour, et c'est là, à mon retour de colonies de vacances, j'avais 18 ans à peu près, que j'ai compris que ma vie ne serait plus jamais comme avant. Et ça a été vraiment le déclic, donc ça fait un bout de temps, hein, plus de 50 ans, et ça a été, j'ai ressenti cette affirmation qui pour moi est une valeur essentielle, que j'ai toujours fait mienne à jamais, hein, c'est ce qu'on dit, chaque homme, chaque femme, chaque enfant est une personne à part entière, quelle que soit sa différence, sa dignité doit être respectée. Voilà, je suis repartie comme quelqu'un qui n'était pas handicapée, qui, à la limite, venait pour aider, hein, faire sa BA.
Oui.
Et je suis revenue, changée, transformée, en me disant eh ben, que ma vie, maintenant, elle devait s'orienter là-dedans.
Voilà. Et donc, à partir de là, eh bien, vous avez fait le nécessaire, puisque je crois savoir que vous étiez déléguée de votre délégation du département, déléguée APF.
Oui, mais ça n'a pas été d'abord ça. J'ai d'abord eu pendant un moment l'APF, bon, je la voyais et tout, mais je n'étais là que dans certains moments. J'ai fait des études et puis après j'ai été institutrice. Donc j'ai été institutrice dans l'enseignement privé parce que le public ne pouvait pas prendre des personnes ayant la polio. J'ai eu la chance de pouvoir passer mon certificat d'aptitude pédagogique. Parce qu'à ce moment-là, il y avait un contrat entre l'État et les écoles privées. Et alors déjà, quand j'étais institutrice, ben, j'avais organisé un groupe cadet le jeudi à l'époque que j'allais m'occuper d'eux. Mais ce n'est qu'en 78, alors parce qu'André Moulis, c'était quelqu'un qui vieillissait, qui devait partir. Et donc, à l'époque, on choisissait les délégués départementaux, c'est pas comme maintenant. Donc elle m'a proposé pour être déléguée départementale. Et voilà, donc à ce moment-là, j'avais lu opération sur opération, donc j'étais dans un parcours assez douloureux. Et j'ai dû interrompre donc l'enseignement et j'ai été mise en invalidité. Donc j'avais du temps devant moi. Et c'est en 78 que j'ai franchi le pas et que je suis devenue déléguée départementale. Mais toutes mes missions à l'APF ont toujours été bénévoles.
Voilà, même déléguée départementale, étiez bénévole.
Voilà. Donc, j'avais la chance, j'étais pas meilleure qu'un autre, mais tout simplement j'avais la chance d'avoir une pension d'invalidité.
Voilà, et puis, bon, vous avez eu une vie de famille, je dirais, normale, parce que, entre-temps, vous vous êtes mariée.
Oui, mariée, puis nous avons eu un fils, voilà.
Voilà.
Et puis, après, la vie de déléguée, j'ai ensuite été déléguée régionale en 81. Oui, au moment de Mitterrand, là, oui, c'était en 81. Là aussi, la région déjà se mettait en place. Il y a un bout de temps qu'on parle de région. Maintenant, les choses se posent, mais depuis très longtemps déjà, il y avait cette vision de région. Et ce n'est qu'en 95 que je suis rentrée au conseil d'administration, quand j'ai arrêté d'être déléguée départementale.
Voilà, et donc là, vous êtes, comme on dit, montée à Paris et vous avez participé à l'avance et à la grande marche de l'APF jusqu'à aujourd'hui.
Jusqu'à aujourd'hui, mais oui, tout à fait. Mais pendant mon mandat d'administratrice, donc je suis rentrée en 95, il s'est passé un autre événement qui a été très important, toujours dans les étapes APF, c'est que en 2001, Denise Boiseau, qui était la responsable nationale des cordées, et avec qui j'entretenais des liens très, très amicaux et affectifs, est décédée comme ça, subitement.
Très rapidement, oui.
Denise est partie. Donc, il a fallu assumer la suite des cordées, puisque, comme je le dis souvent, Denise avait tout dans sa tête, dans son cœur, et c'était comme ça qu'il fallait faire. Elle avait rien d'écrit, ou très peu de choses écrites, peu de traces.
Et ça, je crois que vous allez nous l'expliquer après. On va faire une petite pause musicale. Je vais vous demander ce que vous avez choisi comme musique, parce que c'est assez humoristique, je dirais, et vous avez choisi un homonyme.
Tout à fait. Mais tout simplement parce que je trouve que c'est aussi une autre différence, c'est qu'elle vaut la peine qu'on l'écoute.
Voilà, donc c'est La Petite Lily de Pierre Perret, c'est ça?
Voilà.
Voilà, on écoute et on vous retrouve dans quelques minutes.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily, elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétant lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé des cajots, Lily. Elle s'est tapée des sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre les choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un point rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdit aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un type bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On l'a trouvée plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
Donc nous sommes toujours sur RCF, dans l'émission de l'Association des paralysés de France vous accueille. Nous sommes toujours bien sûr en compagnie d'Aline Perret, qui est tranquillement installée à Perpignan, sous la bonne garde du Camigou, qui est la montagne juste au-dessus. Je sais qu'elle est très importante pour vous. Alors Aline, cette photo, cette musique, cette chanson de Pierre Perret, elle représente pour vous la différence ?
Elle représente la différence sous deux aspects. D'abord, la soif de vivre, une soif de vivre, une soif d'indépendance, d'amour, la soif d'être reconnue, et puis la soif de s'intégrer dans le lieu où l'on est. Ça ressemble étrangement à ce que vivent les personnes en situation de handicap. Et en même temps, l'espérance à la fin. Cette espérance qui va faire que il y a toujours dans ce qui est difficile à vivre une petite lumière qui s'allume et qui dit « Allez, tiens bon, parce que tu vas voir, ça va s'arranger. » Et puis pour Lily, on pense aussi que ça va s'arranger.
Voilà, et puis il y a un mot magique.
Ça ressemble bien à ce qu'on vit, quoi. Voilà.
Voilà, et il y a un mot magique dans cette chanson, c'est le mot « amour ».
Voilà.
Et ça, c'est valable pour tout le monde, je dirais. Tout le monde a droit à cet amour.
Oui, on dit toujours « l'amour ne passera jamais ».
Voilà, tout à fait. Tout à fait. Alors, moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce que vous nous avez commencé tout à l'heure, l'histoire des cordées. Bon, vous savez que j'y suis très, très sensible. Alors, comment avez-vous repris ces cordées de Denise Boiseau, qui les avait laissées, ben, je dirais, toutes dans sa tête? Et donc, c'était quand même quelques 400 ou 500 personnes qui étaient, entre guillemets, à gérer et qui se trouvaient un petit peu perdues comme ça?
Oh, ben, ça c'est... bon, d'abord il y a eu l'annonce de la mort qui a été brutale, et puis au conseil d'administration, donc qui va reprendre. Et enfin, j'ai dit je veux bien, parce que j'étais déjà cordée à l'époque. J'ai toujours promis à Denise que quand j'arrêterai mon poste de délégué départemental à l'APF, je rentrerai dans une cordée. Et si je l'avais oublié, elle me l'a vite rappelé.
Voilà, donc vous étiez cordiste, voilà. Donc...
Je suis donc rentrée dans une cordée. Donc j'étais déjà cordiste depuis une année à peu près.
Alors nos auditeurs ont déjà entendu parler des cordées, hein, on a déjà fait une ou deux émissions là-dessus. Donc ils savent ce que c'est qu'une cordée, hein. C'est un processus, on va le rappeler très vite, d'écriture entre plusieurs personnes.
Voilà. Et donc... Bon, on me dit, on va t'envoyer tous les documents qui est là, tout ce qu'elle a, on va en faire, bon, des personnes sont allées, puis m'ont ramené tout ce qu'on a pu et que Denise gardait par rapport aux cordées. Et aussitôt, j'ai de suite, elle est morte le 6 mars, et le 7 mars, j'ai envoyé un courrier à tous les cordistes, enfin, dont je connaissais le nom, et l'adresse, hein, c'était pas après avoir, et en disant, voilà, ben, Denise nous a quittés, moi je suis certaine qu'elle souhaitait que ça continue, on va essayer ensemble de faire continuer ces cordées, voilà, et puis, et j'ai demandé à chaque cordiste qui recevait cette lettre de bien vouloir, si elle recevait une cordée, de me la renvoyer, et c'est comme ça qu'on a fait, c'est-à-dire que petit à petit, quand les cordées arrivaient chez une personne, même si elle n'était pas premier de cordée, même si elle n'était simple cordiste, elle avait pour consigne de me la renvoyer. Et c'est comme ça qu'on est arrivé, de fil en aiguille, à reconstruire cette toile de solidarité. voilà, entre les uns et les autres.
Voilà, et donc vous avez, en plus de votre travail au conseil d'administration, et puis d'autres activités que vous avez par ailleurs, et de votre vie de famille, vous êtes devenu responsable des cordées au niveau national.
Je suis devenue responsable, à l'époque ce n'était que des cordées épistolaires, mais ça a été un lourd, lourd travail, parce que il fallait retrouver tous les anciens, tous ceux qui écrivaient. Mais enfin, on y est arrivé, parce qu'on était tous ensemble, donc chacun s'est senti très impliqué dans cette affaire, et a apporté vraiment un grand soutien. Puis ça a duré quelques années comme ça, et puis l'électronique se mettant en place, on a eu envie de lancer des cordées électroniques, mais je ne l'ai fait que parce que là aussi, à l'APF, on rencontre toujours les gens qu'il faut
au bon moment.
Et là, ben, Yvonne, c'est de vous que je parle.
Oui, ça.
J'ai, à travers les cordées, puisque j'avais la chance de recevoir toutes les cordées épistolaires, et donc je lisais tous les messages. Et puis, je ne vous connaissais pas, voilà. Mais à travers vos messages, je me disais, tiens, il y a quelque chose de porteur, il y a quelque chose qui pourrait faire que nos cordées continuent à avancer. Et voilà, j'ai souhaité vous connaître.
Voilà, et vous m'avez passé le bébé.
Et puis, voilà, on s'est vu pour de vrai, comme disent les enfants.
Tout à fait.
Puis on a pensé que c'était bon. Et c'est comme ça que vous êtes devenu, responsable des cordées épistolaires. Et de mon côté, moi, je vais garder les cordées électronique.
Voilà. Alors, moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur votre parcours, je dirais, dans toute votre vie. Vous avez eu cette polio, mais est-ce que vous avez eu d'autres problèmes après de santé? Est-ce que vous avez été obligé de réduire certaines activités suite à d'autres problèmes?
Moi j'ai eu de gros problèmes après, parce que je pensais que la polio, moi comme tout bon polio qui se respecte, on nous avait toujours dit, la polio, tu l'as, point, tu fais quand tu as fait ta rééducation et quand tu as, c'est fini, après tu vis normalement, et on nous disait toujours, tu remplis ta tête puisque tes jambes n'avancent pas, c'est ta tête qui doit être pleine. Bon, ben moi j'en étais restée là et je ne pensais vraiment pas un jour avoir d'autres problèmes par rapport à la polio. Or, la polio, il y a des séquelles, mais après, il y a d'autres soucis qui s'en mêlent. Et pour ma part, j'ai eu toutes les articulations qui ont lâché, donc j'ai eu 5 opérations. C'est ce qui a fait que j'ai dû arrêter l'enseignement. L'enseignement, c'était ma vie, je l'avais choisi, c'était pouvoir être dans une, faire la classe. Moi, je ne pensais pas que ma vie puisse, je n'avais jamais pensé à avoir une mission particulière à l'Association des paralysés de France. Moi, ma vie, c'était l'enseignement.
Et aujourd'hui, là, si c'était...
Ça s'est cassé brutalement et ça a été terrible. Oui. Oui, heureusement, encore une fois, que l'APF a été là pour me tendre les mains.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous avez vécu quelque chose, une séparation très douloureuse avec l'enseignement, mais en même temps, vous avez pu, donner autre chose. Il y avait des partages, parce qu'une délégation, c'est quelque chose de très riche, c'est un vivier très très riche, c'est fait de rencontres. Et puis ensuite, vous avez eu le conseil d'administration qui je présume, doit donner d'autres partages, d'autant plus que vous étiez
c'est
très...
Oui, c'est un passage dans la délégation. C'est, pour moi, comme je suis quelqu'un qui aime bien entreprendre, créer et bâtir, j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai pu mettre en place un service social, j'ai mis en place un service auxiliaire de vie en 81, où il y avait 13 postes temps plein, des groupes différents créés, enfin bon, et puis, ça c'est le côté qui était très 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 intéressant pour moi. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que le conseil d'administration, c'est autre chose. C'est une réflexion plus en avant, c'est une réflexion qui est généralisée et qui ne se porte pas sur un point particulier, mais sur tous les points.
Et puis c'est au niveau national.
Comme mon expérience de terrain, aussi bien en département qu'en région, m'ont beaucoup aidé.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, donc, vous êtes, pour des raisons personnelles, vous avez souhaité ne plus faire partie du conseil d'administration. Vous continuez bien sûr les cordées. Quelles sont vos activités aujourd'hui?
Oh, ben, c'est-à-dire que pendant que j'étais déléguée départementale, il y avait de grands besoins pour beaucoup de personnes souhaitaient avoir un établissement. un établissement qui puisse accueillir les personnes donc en situation de handicap moteur. Moi, j'avais travaillé là-dessus et j'avais un terrain, on nous avait donné un terrain, on avait plein de choses, donc je monte au conseil d'administration et je dis voilà, nous avons des besoins, nous avons tout ce qu'il faut pour les mettre en place. Je souhaiterais que l'APF donc accepte et nous donne l'autorisation de créer cet établissement.
Ouais,
et le directeur général de l'époque me dit « Ah, il n'en est pas question, l'APF a décidé de faire une pause, donc nous ne créerons pas d'établissement. » Je lui ai dit « Monsieur, c'est très bien, alors je vous annonce que je crée une association et que nous allons créer cet établissement parce qu'il y a vraiment des besoins. Par contre, je vous demande deux choses. Un, c'est de former les directeurs que je vais embaucher. Et la deuxième chose, c'est d'avoir le commissaire aux comptes qui vienne, de l'APF, qui vienne vérifier les comptes. » Alors il me dit « Eh bien, vous faites comme vous voulez. »
Voilà.
Et puis voilà. Donc je suis repartie, nous avons créé une association, une petite association, et voilà 18 ans, puisque dimanche on a fêté les 18 ans de l'établissement, a été créé.
Voilà, et aujourd'hui, vous continuez bien sûr à vous en occuper aujourd'hui.
Oui, 32 places dans l'établissement, et puis maintenant, depuis 2 ans, on a pu... élargir et puis avoir des chambres externalisées, c'est-à-dire on avait les HLM mis en place 15 villas, bâti 15 villas tout à fait domotisées et accessibles, où 15 personnes en situation de handicap qui peuvent encore vivre à domicile y sont. Sur les 15, il y en a 8 qui ne pouvaient pas, donc on a obtenu des chambres externalisées, voilà, donc ça occupe bien, mais j'espère bien que dès l'année prochaine, le directeur de l'établissement prend sa retraite et j'espère bien que cet établissement va rentrer dans le giron de l'APF, là où elle aurait dû être conçue.
C'est votre souhait ?
Comment ?
C'est votre souhait le plus cher aujourd'hui ?
Oui, mais c'est en marche déjà, hein. Je pense que c'est ça. Moi, j'ai tenu. De toute façon, le conseil d'administration a été fait avec des gens très proches de l'APF. L'établissement, il fallait, quand les villas se sont construites, il fallait trouver un nom pour la petite place. Et on l'appelle Place André Tranois.
Voilà.
Pour moi, j'ai été ce petit troublion, cet électron libre.
Voilà, mais c'est bien, il en faut.
Mais maintenant, il faut que ça revienne dans le giron de l'APF. Il n'y a jamais... Le directeur a été formé par l'APF.
Voilà, il ne l'a jamais quitté vraiment.
Il est dans le réseau APF, cet établissement.
Voilà.
Bon, il fallait le faire.
Voilà, on va arriver malheureusement déjà à la fin de l'émission. Je crois que... Quelle serait la... J'aimerais que vous me disiez une phrase d'espoir. Enfin, quelle est votre ligne de vie, je dirais, encore aujourd'hui ? Vous en avez parlé un petit peu, mais quelle est la phrase qui comme ça, sans réfléchir, vous motive au-delà de tout ?
Ah, pour moi, ma phrase, c'est « l'amour ne passera jamais ».
Voilà.
Parce que j'estime que pour avoir vu des gens vraiment dans la mouise, pour avoir vu des... Il y a toujours, il me semble... un petit grain d'amour quelque part, un petit grain de sénévé là de moutarde, qui est tout petit, mais il suffit de le voir et puis ça redonne de l'espoir et ça fait avancer. Parce qu'autrement, voilà, moi c'est ma voilà.
Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous remercie. Merci de ce moment passé ensemble. Je crois que nos auditeurs vont apprécier votre façon de voir les choses et en tout cas votre caractère de battante. Merci Aline. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés et qu'ensemble, avec l'APF, faisons face à la vie. Merci, au revoir.